Bonsoir Yaël.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Vous êtes notre ami et confrère journaliste spécialiste, entre autres, de la politique israélienne. Une conférence de presse qui était nécessaire de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce que vous en avez retenu de particulièrement primordial? C'est-à-dire de quelque chose qu'il fallait absolument qu'il soit dit aujourd'hui.
Je dirais que le Premier ministre sent que les tensions se crispent, augmentent au sein de l'opinion publique israélienne, que le désespoir remplit, et peut-être à juste titre, les familles des otages qui souhaitent faire entendre leur voix. Et donc Benjamin Netanyahou a organisé cette conférence de presse pour en quelque sorte les rassurer sur ses intentions, sa volonté de faire libérer l'ensemble des otages israéliens. Et il a expliqué, comme il l'explique depuis déjà 5 mois, maintenant 6 mois même, sa méthode. Aucun compromis accordé au Hamas, stratégie qui repose sur une pression militaire constante sur le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza, et des négociations qui sont menées à la fois avec les médiations qataries et égyptiennes, avec bien évidemment l'aide américaine et européenne. Donc Benjamin Netanyahou a essayé en quelque sorte de rassurer l'opinion publique israélienne, même si toutefois il existe aujourd'hui beaucoup de foyers de tension au sein de cette opinion publique israélienne.
Beaucoup de tension aussi au sein de la coalition, de l'opposition évidemment, avec cette réaction immédiate de Yair Lapid qui affirme que Netanyahou fait tout pour la politique et rien pour le pays, mais aussi au sein de la coalition, des voix qui se font entendre de plus en plus ces derniers jours. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou a un avenir encore politique certain?
Je dirais qu'au regard des sondages et au regard de cette volonté aussi affichée par Benjamin Netanyahou d'afficher une fermeté face aux exigences folles du Hamas, cela rassure le public israélien. Alors il y a la question de Rafah qui reste en suspens. Sur cette question de Rafah, Benjamin Netanyahou est attendu au tournant, au fil des semaines, même au fil des mois, si l'armée israélienne ne venait à encore repousser cette opération de Rafah en raison de l'équation, je dirais, humanitaire de cette population, de ce 1,5 million de Gazaouis qui sont présents dans cette zone humanitaire, alors il pourrait y avoir, je dirais, un danger pour Benjamin Netanyahou. Mais si l'on croit les dires du Premier ministre israélien, il y aura une opération à Rafah, il y aura de la fermeté affichée dans les négociations qui sont menées actuellement face au Hamas. Et il y a une volonté aussi de maintenir le cap au sein de la coalition, même si Benny Gantz et Gadi Eisenkot ont des velléités de sortie dans un avenir proche.
Est-ce que vous pensez que aujourd'hui l'opinion israélienne est satisfaite d'avoir récupéré un peu moins de la moitié des otages, de savoir qu'il y a encore 134 personnes qui sont toujours dans les geôles du Hamas, sachant que aujourd'hui des voix s'élèvent en disant qu'il faut même tout accepter, tout donner, mais les récupérer le plus rapidement possible. Et Netanyahou et Tzahal insistent sur les victoires qui sont vraiment importantes, mais les victoires militaires et l'importance de la continuité de cette opération militaire, et notamment à Rafiach. On est revenu vers l'hôpital Shifa où on a trouvé un véritable QG, il n'y a pas d'autre mot. On a besoin d'une opération militaire, on en avait besoin a priori depuis très 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 longtemps, mais aujourd'hui ce dont on a besoin, c'est des bonnes nouvelles, de savoir que les gens reviennent et de savoir que les familles se recomposent.
Oui, Yael, l'opinion publique israélienne sera sans pitié. Elle sera sans pitié et elle attend au tournant l'ensemble des responsables politiques du pays. Exemple, ce qui s'est passé jeudi lors des primaires du parti Yesh Atid, où tout le monde pensait que Yair Lapid allait gagner haut la main. Haut la main. il a gagné avec 30 voix d'écart.
Ouais.
C'est un petit exemple dans l'océan de d'attente légitime qui sont exprimées aujourd'hui par l'opinion publique israélienne. Donc elle sera sans pitié, elle attend Benjamin Netanyahou d'obtenir tout simplement la victoire sur le Hamas, de ramener l'ensemble des otages israéliens, morts ou vivants, on l'espère le plus de vivants possible. Elle attend une réponse aussi dans le nord, face au Hezbollah, de voir retourner chez eux ces 60 000, 70 000 personnes qui sont réfugiées dans leur pays. Des réponses en vue de la rentrée scolaire prochaine pour les habitants des localités israéliennes qui se trouvent proches de la bande de Gaza, d'assurer leur sécurité. Donc je crois que sur l'ensemble des questions, l'opinion publique israélienne sera intransigeante. Maintenant, sur l'autre partie de votre question, sur les concessions aussi à faire sur ces négociations, je pense que là aussi, il y a un juste milieu à avoir, de ne pas céder à toutes les exigences du Hamas, d'afficher, bien évidemment, une certaine fermeté. Et il y a des discussions qui sont menées, notamment sur le retour de la population gazaoui dans le nord de la bande de Gaza, des discussions qui sont menées ce soir au sein du cabinet de guerre, mais avec le chef du Mossad, Dedi Barnea. Là aussi, même s'il y a un intérêt sécuritaire, comme nous l'a expliqué Benjamin Netanyahou ce soir, là aussi, peut-être qu'il y a une sorte de compromis à faire sur cette question. Mais là aussi, ce sont des questions assez sensibles pour l'ensemble de l'opinion publique israélienne.
La suite, vous pensez que Benjamin Netanyahou va se réveiller de son opération, qui est une opération bénigne. Hein,
on l'espère.
Non, va se réveiller. Évidemment, on espère tous qu'il va se réveiller quand même.
Ouais.
Mais va se réveiller de cette opération, prendre 24 heures de repos et retourner au travail comme si de rien n'était.
Il n'a pas le choix. Le pays est en guerre.
Il n'est pas le seul à gérer le pays. C'est-à-dire que si Benjamin Netanyahou n'est plus là, en fait, c'est un peu la mégalomanie de Netanyahou lui-même de penser que s'il n'est pas là, le pays va tomber en ruine.
Disons qu'aujourd'hui, au regard de sa fonction de premier ministre, il a des décisions à prendre. Et je vous rappelle que lorsque Ariel Sharon avait fait son accident vasculaire cérébral, le pays avait connu quelques semaines de turbulences, et cela peut-être provoquerait, enfin dans un scénario que l'on ne souhaite pas, cela provoquerait une déstabilisation du pays à un moment où le pays n'a pas besoin d'être déstabilisé déjà. Le pays essaie de se remettre du traumatisme.
On n'a pas commencé, je crois. Sincèrement,
voilà.
Je pense qu'on n'est même pas au début. Enfin, tant que les otages ne sont pas rentrés, on ne peut pas même entamer, à mon avis, le processus réel de deuil. Enfin, c'est même pas envisageable.
Complètement, déjà, d'obtenir des victoires militaires, d'aller chercher les dirigeants du Hamas. Il y a encore un travail énorme qui doit être effectué sur le terrain, sur la partie diplomatique, d'essayer de composer avec cette administration américaine. Donc ce qui attend Benjamin Netanyahou pour les prochains jours et les prochaines semaines, c'est assez phénoménal.
Un mot avant de nous quitter sur la loi de l'enrôlement et les récentes déclarations, et celle d'il y a tout à l'heure, de Galiba Rav-Mira, la conseillère juridique du gouvernement, que à partir de demain, et c'est pas un poisson d'avril, il faut commencer à recruter à l'armée les ultra-orthodoxes et sinon arrêter de financer leur yeshivot. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est la patate chaude du gouvernement qui dure depuis 2000.
Plus autant que le métro. 2000,
voilà, 2018, qui a fait tomber le gouvernement Netanyahou au mois de décembre 2018 et qui a provoqué toute la série d'élections que l'on a connues et que donc ce dossier n'a pas été résolu. Et il y a, je dirais, un manque de volonté criante sur ce dossier de la part de l'ensemble des acteurs de ce dossier. Il y a eu des discussions interminable entre Benjamin Netanyahou et les partis orthodoxes. Mais là, Yael, on s'attaque à une, je dirais, à un monde qui est rigide sur cette question de l'enrôlement des élèves d'établissements talmudites orthodoxes au sein de l'armée d'Israël. C'est une question idéologique, ils en font une question de principe. Donc pour essayer de bouger les lignes sur cette question centrale pour certains, qui est même vitale pour l'autre partie de l'échiquier politique israélien, pour la partie gauche ou la partie centre de l'échiquier politique israélien, c'est, je dirais, inextricable. Faut-il une loi ? Peut-être, il y a une interrogation à se poser, faut-il obligatoirement une loi sur cette question ? Peut-être que cette question peut être résolue au cas par cas. Certains sont faits pour étudier la Torah, certains non. Alors si ces personnes ne sont pas faites pour étudier la Torah, il y a le marché du travail, il y a
le service national,
on le voit au sein des associations Zaka qui ont rendu un service énorme lors du 7 octobre et les jours qui ont suivi. Donc il y a tout un tas de solutions qui peuvent être envisagées pour régler cette question.
Non, mais par ailleurs, l'armée a besoin de milliers de nouveaux combattants. Là, c'est même plus seulement une question d'égalité ou pas.
Sur cette question, c'est que les partis orthodoxes font de cette question leur fonds de commerce électoral. Et ils utilisent cette question pour pouvoir augmenter leur capital électoral et ne cherchent pas à trouver des solutions. Maintenant, il y a aussi la position de la conseillère juridique au gouvernement qui aussi refuse toutes les solutions proposées par les membres du gouvernement actuel. Donc il y a une sorte de bataille de pouvoir entre Benjamin Netanyahou, Aryeh Deri et l'ensemble des cadres de la coalition avec la conseillère juridique au gouvernement. Ce dossier, à mon avis, il est inextricable si l'on en passe par la Knesset et par une loi. Ce dossier-là doit être résolu, à mon avis, au cas par cas. Peut-être je suis utopiste, mais je pense que cette question-là doit être résolue au cas par cas.
Je voudrais un dernier mot. Je sais que je vous ai dit que j'allais vous libérer, mais je voudrais quand même vous demander si vous pensez que avec ou sans les Américains, avec ou sans la pression internationale, Israël peut réellement tenir une activité militaire terrestre, aérienne et maritime d'ailleurs, sur le très 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 long terme. J'ai pas encore même parlé du Hezbollah. Je parle pour l'instant juste de Gaza.
Je pense que le juge de paix se déroulera le mois de novembre 2024, le jour des élections présidentielles américaines. Et là, si Joe Biden est réélu, alors Benjamin Netanyahou peut-être reverra ses plans d'opération dans la bande de Gaza. On verra où on en sera d'ici le mois de novembre. Mais je pense que ce sera le juge de paix. Aujourd'hui, Israël mène des opérations, continue ses opérations dans la bande de Gaza. Il y a du travail à effectuer, notamment du côté des hôpitaux de la bande de Gaza, du côté de l'hôpital Shifa, où il y a des prises importantes, des prises de renseignements importantes qui font aussi avancer les négociations actuelles sur la libération des otages. Plus ça obtiendra des renseignements précieux, plus l'échelon politique accentuera la pression sur le Hamas, à mon avis. Concernant le dossier du Nord, là c'est un autre dossier. Le Liban, c'est un pays qui a une influence européenne, où la France a des intérêts importants, l'Europe a des intérêts importants, les États-Unis aussi ont des intérêts importants avec le Liban. Donc là, c'est un dossier qui est, à mon avis, à part, même si Hassan Nasrallah lit les deux dossiers du Front Nord et celui de la bande de Gaza.
Jonathan Serrero, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve très prochainement sur les ondes de Cannes en français.
Merci à vous.